tous les vendredis, le rabbin Jonas sur Koulam Radio.
Depuis les massacres du 7 octobre, les prix de la liaison aérienne Paris-Tel Aviv atteignent des sommets. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et mon propos ne sera pas d'enfoncer des portes ouvertes, de s'interroger sur la moralité et la légitimité des propriétaires des LAL, de s'appuyer sur cette fameuse loi du marché pour maintenir des tarifs aussi élevés. Non. Au contraire, même si je suis aussi victime de ces prix prohibitifs, néanmoins, je ne peux m'empêcher de revenir en arrière. En 1983, cette année-là, des accords de gouvernement avec les partis religieux avaient obligé la compagnie El Al, qui appartenait à l'État à l'époque, à respecter le Shabbat et les fêtes juives, à ne plus profaner ces jours sacrés. Et cette décision avait suscité des critiques dans les milieux économiques qui percevaient dans ce respect du Shabbat des pertes financières considérables pour El Al. Qui plus est que dans le même temps, les compagnies aériennes étrangères, elles, étaient autorisées à voler 7 jours sur 7. Et lors de la privatisation de El Al, à nouveau, certains ont imaginé profiter du passage dans le domaine privé d'El Al pour remettre en cause cette interdiction de voler Shabbat et fête, toujours pour des motifs économiques. En 2025, et après la crise du coronavirus, force est de constater, à nos dépens sans doute, que le Shabbat récompense ceux qui le respectent, et que même s'il faut parfois attendre pour voir la bénédiction du Shabbat se réaliser, un juif se doit de croire jusqu'au très fond de son âme qu'on n'est jamais perdant en respectant le Shabbat. Et que lors du premier Shabbat officiel de l'histoire, célébré par les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte dans le désert, la première inquiétude de nos ancêtres à la veille de leur premier Shabbat a été de se demander comment vivre 24 heures, un jour entier, le septième, le Shabbat, sans travailler, sans faire aucun effort, sans même aller chercher la ration de manne céleste qui tous les matins tombait du ciel, mais qui le soir venu s'abîmait. Au point que tous les matins, les enfants d'Israël ne disposaient de strictement aucune réserve alimentaire et dépendaient entièrement de cette manne quotidienne. Sauf que lorsque vendredi matin est arrivé, l'Éternel a prévenu les enfants d'Israël que le lendemain, samedi matin, ce n'était pas la peine d'aller ramasser leur manne quotidienne, car le samedi, le Shabbat, la manne ne tomberait pas. Mais alors qu'allons-nous manger en ce septième jour? Ce sont inquiéter les enfants d'Israël, puisqu'il est impossible de conserver de la manne d'un jour sur l'autre. Et c'est alors que l'Éternel les a rassurés. Lorsque vous rentrerez chez vous en ce vendredi matin, vous découvrirez que la ration du vendredi est double, une pour aujourd'hui et une pour lendemain, le Shabbat, et qu'elle se conservera. Ainsi, dans l'ADN du Shabbat apparaît cette idée clé, que le Shabbat est porteur d'une bénédiction infinie, non seulement spirituelle, pour notre âme, notre bien-être, mais aussi une bénédiction matérielle. Et que même si pour les enfants d'Israël, ils ont été témoins dès les premiers instants de cette bénédiction, puisque la veille même de Shabbat, ils avaient déjà reçu une double part de manne. Mais il peut arriver, dans d'autres cas, qu'il faille attendre, patienter plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, pour voir le Shabbat nous offrir sa bénédiction, comme pour El Al et ses heureux propriétaires. Et cette idée est tellement importante qu'un des éléments majeurs des trois repas du Shabbat sont ces deux pains, ces deux chalotes qui figurent en tête de toutes les tables juives de la terre, en référence à la double part de manne du vendredi. Ces deux pains qui sont l'expression de notre confiance en Dieu et en Shabbat, et que c'est un non-sens absolu de réciter le motzi, la bénédiction sur ces deux pains du Shabbat, le vendredi soir et le lendemain, aller travailler. Plus encore, notre paracha de Emor, ou en préambule à la présentation des cinq grandes fêtes juives, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah et Shavuot, la Torah rappelle l'obligation déjà mentionnée à plusieurs reprises dans les semaines précédentes de respecter le Shabbat, comme pour signifier que malgré les apparences, le Shabbat est la première des fêtes juives. Mais bizarrement, l'Éternel va ordonner « Sheshet yamim te'aseh melacha » 6 jours, le travail sera fait. Et le 7e jour est un jour de repos. Il aurait été plus adéquat de dire « 6 jours, tu travailleras » plutôt que « l'ouvrage sera fait pendant 6 jours ». Et les sages expliquent qu'à l'image de la manne, qui, de manière surnaturelle, miraculeuse, tombait le vendredi en double quantité, sans aucune intervention humaine. Ainsi, un juif qui s'engage à respecter le Shabbat assistera à une bénédiction surnaturelle, avec l'impression que le Shabbat, que le travail s'effectue de lui-même pendant 6 jours pour permettre à ce juif de se reposer sereinement le Shabbat sans manquer de quoi que ce soit. Et que nos textes sacrés, les récits de nos sages foisonnent d'exemples de ces femmes et de ces hommes qui ont su résister à la tentation de travailler le Shabbat et qui en ont été amplement récompensées. Et une histoire parmi tant d'autres, avant de conclure, celle de Rabbi Israël Isserles, qui au XVIe siècle, à Cracovie, possédait un grand magasin de soie. Il avait pris l'habitude de fermer son commerce le vendredi à midi afin de pouvoir accueillir le Shabbat dignement. Mais une fois, un prince s'est présenté un vendredi pour effectuer un achat considérable de soie. Sauf que la vente s'est prolongée et que midi est arrivé. Et Rabbi Israël s'est tourné vers ce prince pour lui indiquer qu'il devait fermer son magasin en l'honneur du Shabbat. Et malgré l'insistance du prince et sa menace de ne rien acheter du tout, Rabbi Israël a tenu bon et a renoncé à gagner beaucoup d'argent pour mieux se préparer pour le Shabbat. Et Rabbi Israël et son épouse Malka ont donné naissance à un petit garçon, Moshe, qui deviendra le maître incontesté de tout le judaïsme ashkénaze, puisqu'il est le co-auteur du Shulchan Aruch, le Code des Lois, avec Rabbi Yosef Karo pour les séfarades. Face au prix des vols par Tel Aviv, certains supplient le gouvernement israélien d'intervenir. Personnellement, je préfère prier pour la paix en Israël et le retour d'une concurrence saine entre les compagnies aériennes. La paix, justement, ne nous souhaitons-nous pas Shabbat Shalom, car le Shabbat est aussi le garant de la paix. Shabbat Shalom à vous tous.
Kulam.